podcasts de Radio Vatican.
Il y a 99 ans, jour pour jour, le 18 juillet 1918, Nelson Mandela naissait en Afrique du Sud. Ce mardi, la journée internationale de l'ONU lui est consacrée en hommage à celui qui s'est éteint en 2013 à Johannesburg. Avocat spécialiste des droits de l'homme, il entre à l'ANC avant de créer la Ligue de la Jeunesse de l'ANC en 1944. 4 ans plus tard, l'Afrique du Sud met en place l'apartheid. Nelson Mandela organise alors des campagnes de désobéissance civile, puis finit par prôner la lutte armée contre Pretoria. Jugé avec plusieurs autres dirigeants de l'ANC, il est ensuite condamné à la prison à la perpétuité et enfermé sur l'île prison de Robben Island. Sauf que dans les années 80, l'Afrique du Sud est de plus en plus isolée. Nelson Mandela est alors choisi pour conduire les négociations après sa libération en 1990, conduisant à la chute de l'apartheid. Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1993. Un an plus tard, le 27 avril 1994, Nelson Mandela est élu président de la République avec 63% des voix. Il devient donc le premier président noir du pays. Jean Guilouano est le biographe de Nelson Mandela et le traducteur de ses mémoires. Il revient sur son enfance, interrogé par Marie Duhamel.
Il faut dire qu'il est né, si j'ose dire, au fin fond de l'Afrique, dans le Transkei, qui est une région sur le bord de l'océan Indien. Et il est originaire d'une famille royale d'un peuple qui s'appelle les Tembu, les Kossa du Transkei. Et il a, tout enfant, il a été présent quand il y avait les conseils de la tribu, des anciens, etc. Il explique d'ailleurs très bien dans son procès qui aura lieu beaucoup plus tard en 64 qu'il assistait à une sorte de démocratie directe et que c'est un peu ce qui l'a inspiré. Et le fait d'appartenir à une famille royale africaine lui donne une sorte de légitimité à lui-même, mais aussi aux Africains pour qui ça a représenté quelque chose de très réel, de très vivant. Ça, c'est le contexte historique dans lequel il a pris naissance et conscience. Et ensuite, il a fait des études secondaires et puis études supérieures dans une université pour noirs à Fort-Terre. Il a un diplôme d'avocat, donc il appartenait à une sorte d'élite noire quand même en Afrique du Sud. Et puis très vite, le renforcement de l'apartheid l'a amené, comme tant de militants noirs, à s'engager et à lutter contre ce type de régime qui était insupportable. Et donc, il est rentré dans l'ANC, qui était un très vieux mouvement créé en 1912, de dialogue et surtout de revendication des Noirs sud-africains. Et comme il considérait que ce mouvement, l'ANC, était dirigé par des chefs très respectueux du pouvoir, etc., en 1943-1944, ils ont créé, avec Sisulu, Govambeki, etc., ils ont créé la Ligue de la Jeunesse. Et cette Ligue de la Jeunesse a amené à une nouvelle forme de lutte contre le pouvoir, parce que c'est l'époque où commence la décolonisation en Afrique, où a lieu les premières guerres, en particulier au Vietnam, ensuite en Algérie, puis dans toute l'Afrique. Et Mandela dit, j'avais l'impression de frapper une porte qui était toujours fermée. On a décidé de faire sauter la porte. Et donc, ils sont passés à l'action violente. Il définit d'ailleurs très bien la violence. Il la théorise d'une certaine façon en disant que le premier stade, c'est le sabotage. Le deuxième, c'est l'attentat. Le troisième, c'est la révolution. Mais en fait, ils ne sont pas allés beaucoup plus loin que le sabotage. Ils ont posé des bombes sur des pylônes de l'électricité à haute tension, voilà, en prenant le soin de ne pas faire de victimes, surtout dans un premier stade. Et puis, évidemment, les réactions du pouvoir ont été telles qu'ils ont été arrêtés. Le procès a eu lieu en juin 1964 et ils ont été condamnés à la prison à vie.
Qu'est-ce qui a conduit à la libération de Nelson Mandela en 1990, 27 ans après ?
C'est que entre 1964, le procès et la condamnation à vie, tout d'abord, ils ont été transférés à Robben Island, qui est une petite île devant le cap de Bonne-Espérance, dans l'océan Atlantique, et qui est un régime très, très dur. Et petit à petit, ils sont sortis de Robben Island à la fin des années 70. Et au début des années 80, quand le monde commençait à changer avec l'arrivée de Gorbatchev, par exemple, en Union soviétique, qui semblait vouloir dire que l'Union soviétique allait évoluer de façon considérable, les Américains ont demandé au pouvoir sud-africain de trouver un interlocuteur pour commencer des négociations et savoir comment sortir de cette situation. Parce que la guerre froide, c'était, comme on sait, un partage du monde. Et d'un côté, il y avait le monde libre, et de l'autre côté, il y avait la dictature. Mais les uns pour les autres, l'Afrique du Sud appartenait au monde de la liberté, comme le Chili de Pinochet. Les mots n'avaient plus de sens d'une certaine façon, puisqu'on était dans un affrontement de blocs et que des intérêts stratégiques supérieurs faisaient passer le reste. En 1983, Nelson Mandela, qui n'était plus à Robben Island depuis quelques années, était dans une prison près du Cap qui s'appelle Portsmouth. Et quand un ministre venait lui rendre visite pour commencer à discuter avec lui, c'était quand même un peu difficile de le recevoir ou au parloir de la prison ou dans la cellule ou quoi. Et on l'a mis dans une prison qui est au nord du Cap, à une cinquantaine de kilomètres, près de la ville de Parle. Et la prison s'appelle Victor Vester. Et là, on l'a mis dans la maison du directeur de la prison, qui se trouve être dans l'enceinte de la prison. Et là, il a commencé à avoir une vie décente parce que le pouvoir a reconnu que c'était lui le principal interlocuteur qui permettrait de sortir par le haut de cette situation.
Et pourquoi est-ce que c'est Nelson Mandela qui incarne cette possibilité de sortir par le haut ?
Parce que c'est lui qui a créé le mouvement armé, Umkhonto we Sizwe, parce que c'était véritablement le chef du groupe. D'ailleurs, c'est assez amusant, il raconte ça dans ses mémoires. Quand il discutait, lui tout seul, avec le ministre de la Justice ou le ministre des Affaires étrangères qui venait le voir en prison, très souvent ses camarades, quand l'entrevue était terminée, lui reprochaient de ne pas avoir pris l'avis de tout le monde avant de prendre une décision. Vous voyez, c'était véritablement une personnalité qui s'imposait, quoi, et qui avait eu un rôle historique, qui avait une formation intellectuelle importante, il était avocat. Il était reconnu dans le monde entier, ça il faut bien comprendre, hein. Aussi bien dans le concert de Wembley à Londres, concert historique là où tous les chanteurs des États-Unis et d'Angleterre sont venus, aussi bien que sur les murs des ghettos d'Afrique du Sud, on écrivait « Free Mandela » parce que c'était lui le symbole de la liberté, à la fois son rôle et cet emprisonnement de 27 ans qui est quelque chose d'impensable. Alors qu'il n'avait commis aucun crime, il était sauté des bombes, mais dans un état qui tuait allègrement, sans discuter, en tirant sur la foule, quoi.
Est-ce que ça veut dire aussi, si on l'a choisi, que c'était quelqu'un qui était capable d'être dans la conciliation et capable de pardonner ?
Oui, mais ça, il le dit très bien, quoi. J'aime bien, il y a une phrase de Sophocle dans une pièce qui s'appelle « Ajax », une tragédie qui a 2500 ans. Et Sophocle écrit « Il faut haïr vos ennemis en pensant qu'on les aimera peut-être un jour ». Et je trouve que cette phrase s'applique très très bien à Mandela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vengeance dans son attitude. Il y a une volonté de sortie politique. Et c'est ça les grands politiques, en fin de compte. Les gens qui ne pensent qu'à se venger n'apportent rien à l'histoire, que de vengeance supplémentaire. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Et Mandela avait bien compris que le monde, dans les années 80, le monde a changé. Il y a une sorte de symbole comme ça, qui n'est pas seulement symbolique, je crois. C'est en octobre 89, le mur de Berlin s'effondre et on libère les compagnons de Mandela en même temps. C'est une coïncidence parce qu'ils auraient pu être libérés un mois plus tôt ou un mois plus tard. Mais symboliquement, que ça se passe en même temps, je crois que tout est là. Tout tenait aussi à la guerre froide. Et Mandela, ça a été l'homme de la situation, si je veux dire, qui a permis à l'Afrique du Sud de s'en sortir comme il faut et sans guerre civile. Ça, il y a un roman de Coetzee, là, le prix Nobel de littérature, qui date de 20 ans plus tôt, qui s'appelait « En attendant les barbares ». Ça, c'était vraiment ce qu'il y avait dans la tête des Afrikaners. Ils pensaient que la seule sortie, ce serait la guerre civile, le massacre. Et Mandela a été l'homme de la paix. C'est ça son rôle historique fondamental.
En 1990, Mandela sort de prison, il est libéré, il serre la main de ses bourreaux et négocie avec les Blancs, mais aussi avec les Inkatha, ces Zoulous qui contestaient l'ANC, donc la stratégie au profit de l'unité.
J'ai raison de citer l'Inkatha, Kalinkata, c'était le mouvement à la fois politique et militaire des Zoulous du Natal, alors que l'ANC était essentiellement dirigé par les Xhosa du Transkei. Sans entrer dans des questions tribales, les Zoulous auraient reproché à l'ANC d'être uniquement Xhosa. Et parce qu'ils voulaient être à la table des négociations, Gacha Buthelezi, le chef de l'Inkatha, qui était une organisation militaire, hein, il y a une tradition militaire chez les Zoulous, et l'Inkatha a essayé, quand il y avait les grandes conversations de paix, c'est-à-dire au début des années 90, l'Inkatha a essayé de saboter ça. Et Mandela, il a eu un geste assez extraordinaire, parce que quand il a été élu président, il a nommé Buthelezi ministre de l'Intérieur, et il a récupéré le truc. C'est ça aussi le sens politique de l'histoire qu'avait Mandela.
C'est aussi un homme qui a réclamé les mêmes droits pour tous, après donc près de 50 ans d'apartheid. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de ce combat sur l'égalité? Est-ce que les Noirs sont fiers de leur africanité? Est-ce qu'ils sont plus éduqués qu'avant?
Alors aujourd'hui, c'est un pays normal, l'Afrique du Sud. Il y a un passé très très lourd qui a réparti la richesse et l'éducation. Il y a un type qui me racontait, quand j'étais à Fort Terre, à l'université de Fort Terre, et il y avait là un professeur, et il me disait, ce qui se passe de terrible, c'est que les meilleurs étudiants noirs sont partis dans les universités blanches, les meilleurs, et les plus mauvais étudiants noirs sont restés à Fort Terre, parce qu'on ne veut pas d'eux dans les autres universités, mais les plus mauvais étudiants blancs maintenant viennent à Fort Terre, parce qu'on ne veut pas d'eux non plus dans les grandes universités. Et le niveau de Fort Terre a baissé à cause de ça. Vous voyez, les effets secondaires d'une égalité. Alors, égalité, il ne faut pas non plus exagérer, parce qu'il reste des différences sociales qui sont terribles, des injustices plus grandes que celles qu'on connaît ici, mais en Afrique, qui sont très comparables souvent.
C'était une figure aussi un peu incontournable. Est-ce qu'on peut dire quand même que ça a été difficile de faire sans lui après? On lui reproche parfois d'être resté, d'avoir gardé les rênes trop longtemps sans déléguer, avec pour résultat aujourd'hui une ANC qui est toujours au pouvoir, bien qu'elle ait énormément de problèmes à répétition, de scandales, etc.
Tout d'un coup, arrivé au pouvoir, l'ANC ne remplit plus le rôle qu'elle a commencé à remplir dans les années 90, quand Mandela a été élu. Mais en même temps, il faut noter que Mandela a été élu pour 5 ans en 94, et qu'en 99, il a dit « j'arrête ». Ce qui est exceptionnel dans le monde, et en particulier en Afrique, là, Mandela a exercé un mandat. C'était un peu comme s'il avait fini son travail historique, il fallait arrêter. Ses successeurs, Thabo Mbeki, qui est le fils de Govan Mbeki, qui a fait 27 ans de prison aussi avec Mandela, n'a pas été à la hauteur de la situation. Et ensuite, Jacob Zuma, qui est un personnage incroyable, les Zoulous, c'est un peuple incroyable. Il y a une dégradation politique qui est vraiment très, très dommage aujourd'hui. Et les espoirs qui sont nés à partir de 90 et surtout de 94, quand Mandela a été élu, ces espoirs aujourd'hui sont un peu abandonnés et tout d'un coup, l'Afrique du Sud est en train de devenir un pays un peu comme les autres, où ça ne marche pas très bien. D'autant qu'il y a un très lourd passé à régler.
Et justement, est-ce que la figure de Nelson Mandela est encore quelque chose qui conforte, qui donne de l'espoir pour la population sud-africaine?
Non, Mandela, maintenant, c'est une espèce de référence historique. On ne peut pas lui demander d'avoir fait plus que ce qu'il a fait. Les problèmes d'aujourd'hui ne viennent pas de ce que Mandela n'aurait pas fait, en quelque sorte. Les problèmes d'aujourd'hui viennent de la société d'aujourd'hui. Et ça ne marche pas très très bien. Je crois que si les dirigeants sud-africains, parce que c'est un pays très riche en même temps, donc ils ont les moyens de donner à tous une éducation qui est la clé de toute société, et au-delà de donner une répartition des richesses qui soit plus démocratique. La démocratie tient à ça.
Les Nations Unies ont donc institué une journée internationale dédiée à cette figure de Nelson Mandela. Qu'est-ce que vous pensez que ça illustre justement cette initiative onusienne?
Je trouve ça quand même extraordinaire qu'on fasse ça. C'est quand même la reconnaissance par l'ONU de ce qu'il convient de faire, quoi. Mandela, il n'y a pas beaucoup de personnages dans l'histoire qui ont eu un rôle aussi extraordinaire. Sortir sans guerre civile, surtout en Afrique, hein, ce pauvre continent qui est déchiré de tous les côtés, sortir sans guerre civile de cette situation qui avait commencé au XVIIe siècle et l'apartheid avait commencé juste après la Seconde Guerre mondiale, de sortir alors qu'il y avait une haine, une volonté de vengeance, etc., Mandela a réussi à convaincre et les Noirs et les Blancs qu'il fallait arrêter. Sinon, tout le monde allait, le pays allait s'effondrer dans une guerre épouvantable. Il a évité ça. C'est exactement la philosophie de l'ONU qui est d'empêcher la guerre à l'origine. Mais il y a peu d'hommes dans l'histoire qui ont marqué comme ça leur époque. Peut-être personnages comme Gandhi en Inde, des personnages comme ça qui sont intelligents. Une espèce d'intelligence politique qui est en même temps une intelligence du cœur, qui dépasse la vengeance, qui dépasse la haine, qui dépasse ces sentiments qui nous mènent toujours à la catastrophe.
Des propos recueillis par Marie Duhamel.